De 1796 à 1797, l'Italie, Arcole et Rivoli. L'Italie n'avait pas réussi à Charles VIII, ni à Louis XII, ni à François Ier finalement, qui échoua à Pavie. Napoléon Bonaparte ne prend pas, comme ses trois rois, la tête d'une ruée de chevaliers prétentieux engoncés dans leurs armures incommodes. Il se met à la tête d'une troupe de va-nu-pieds à qui il s'adresse ainsi.
« Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement ne peut rien vous donner. Vous n'avez ni souliers, ni habits, ni chemises, presque pas de pain, et nos magasins sont vides. Ceux de l'ennemi regorgent de tout, c'est à vous de les conquérir. Je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez bonheur, gloire et richesse. Partons !»
Et ils partent vers Milan, vers Mantoue, déloger les Autrichiens qui dominent les princes italiens et menacent la France. Mais revenons un instant vers le directoire et ses problèmes d'argent. Le directoire n'a qu'un souci, le premier de tous les soucis, la situation financière. Elle est catastrophique, les caisses sont vides. L'assignat s'est dévalué de 99%. À titre de comparaison, l'action Eurotunnel, entre son cours le plus haut et son cours le plus bas, a accompli à peu près la même performance. Pendant que des bandes de spéculateurs, de parvenus du commerce et de la finance, multiplient les scandales et s'enrichissent outrageusement, le pays tout entier meurt de faim. Supprimé en 1796, l'assignat est remplacé par un nouveau papier-monnaie, le mandat territorial. Le résultat est pire. Il doit être lui aussi supprimé. Finalement, la banqueroute de l'État est déclarée aux deux tiers le 30 septembre 1797. Cependant, depuis 1796, la guerre a repris. Une guerre qui, dans l'esprit de ceux qui l'ont provoquée, doit rapporter de l'argent rapidement. Or, dans les premiers temps, ce n'est pas le cas. C'est Lazare Carnot, l'un des directeurs responsables militaires, qui a préparé un plan d'attaque au début de 1796. Deux armées, confiées à Jourdan et Moreau, doivent traverser l'Allemagne pour atteindre Vienne et contraindre l'Autriche à céder à la France ses frontières naturelles, la barrière du Rhin. Une troisième armée, moins importante, devra battre les princes italiens sous la domination des Autrichiens. Mais cette troisième armée étant la plus démunie, on ne compte sur elle que pour opérer une diversion. On la confie au petit général Bonaparte. Jourdan traverse le Rhin, s'avance vers Cologne, rencontre l'archiduc autrichien Charles, frère de l'empereur François II, et neveu de Marie-Antoinette, qui le bat à plate couture. Moreau, qui avait fait reculer les Autrichiens jusqu'au Danube et espérait les renforts de Jourdan, doit opérer une retraite délicate. Un seul général est victorieux depuis avril 1796 sur toute la ligne. Bonaparte.
Le plus joli du monde. Elle avait le plus joli pip du monde. Ici, le terme employé par Bonaparte est censuré. On peut trouver l'équivalent de sa pensée, si tant est qu'en ce domaine c'en est une, dans le dictionnaire, au mot calipige. Marie-Joseph Rose, tachère de la pagerie, surnommée Yéyette dans son enfance martiniquaise, devient l'épouse de Bonaparte le 9 mai 1796. Veuve d'Alexandre de Beauharnais, guillotinée 5 jours avant le 9 Thermidor, elle a bien failli elle aussi monter à l'échafaud. Aussitôt son mariage, Bonaparte part pour la campagne d'Italie. Il supplie Joséphine, Marie-Joseph, de l'y rejoindre. Elle y va, accompagnée de son amant, le beau lieutenant des hussards, Hippolyte Charles. Afin de se procurer de l'argent, elle trempe dans un trafic de chapeaux de paille et de saucissons destinés à l'armée. Elle dépense beaucoup, Joséphine. Aime-t-elle son mari? Ce n'est pas sûr. Ils envisagent même le divorce en 1799. Mais lorsque le vent tourne en faveur de Bonaparte, Joséphine se ravise. Impératrice en 1804, répudiée en 1810, elle meurt en 1814. L'amour qui n'avait peut-être jamais existé entre les époux impériaux avait été remplacé par la tendresse et la fidélité du cœur.
Vainqueur partout, Bonaparte, Vainqueur à Montenotte, en Italie du Nord, le 12 avril 1796, à Dego, le 13, vainqueur à Mondovie, le 21. Le 28 avril, l'armistice est signé avec les Sardes et le roi de Sardaigne à Cherasco. Au traité de Paris, le 15 mai suivant, la France gagne Nice et la Savoie. Et ce n'est qu'un début. Sus aux Autrichiens. Voici Lodi, le 10 mai 1796, où les troupes de Bonaparte, entraînées par Berthier, Augereau, Lannes et Masséna, franchissent un pont alors que la mitraille siffle de partout. C'est la victoire. La route de Milan est ouverte. Napoléon entre dans la ville en libérateur le 15 mai 1796. On lui fait un triomphe. Le directoire ordonne alors à Bonaparte de se diriger vers l'Italie centrale. Bonaparte trouve cette stratégie stupide. Il faut aller d'abord à Mantoue, le point d'appui autrichien. Sans demander l'avis de quiconque, il y va, assiège la ville. Les Autrichiens, sous le commandement du maréchal Würmser, accourent alors pour secourir la cité en danger qu'ils libèrent de l'assiégeant. Bonaparte revient à la charge, chasse les Autrichiens de Mantoue, puis les attaque à Lonato le 3 août 1796. Victoire. À Castiglione ensuite, le 5 août, victoire. Augereau, sous l'Empire, deviendra duc de Castiglione. À Bassano, le 8 septembre, victoire. Il y a bien un Caldiero, le 12 novembre. Les Autrichiens, poursuivis par Bonaparte à Bassano, ont trouvé refuge dans Mantoue et demandé des renforts. Ceux-ci, 45 000 hommes, sous les ordres d'Alvinzi, déployés dans Caldiero, résistent aux Français. Le peintre Antoine Jean Gros, 1771-1835, a immortalisé dans un tableau qu'on peut voir au musée du Louvre, El Sully, deuxième étage, section 54, l'expression résolue de Bonaparte lorsqu'il décide d'entraîner ses hommes sur le pont d'Arcole. Élargissons le plan et voyons ce que fut cette bataille d'Arcole. Les Français, ils sont 15 000, sont ralentis à Caldiero, certes, mais c'est pour mieux rebondir. Le plan de Bonaparte est simple. Les Autrichiens d'Alvinzi stationnent autour de Caldiero à une dizaine de kilomètres au nord. Ils sont encore plus de 40 000. Il va envoyer vers sa gauche Masséna, puis vers sa droite Augereau. Les deux divisions françaises prendront en tenaille l'armée ennemie. Le 15 novembre 1796, le plan est mis en application. Augereau franchit le fleuve Adige, traverse une zone de marécage et atteint le pont qui enjambe la rivière Alpone et mène à l'entrée du village d'Arcole. Mais dès qu'il veut s'engager sur ce pont, les Autrichiens de la division Mitrovski, qui tiennent le village, déclenchent un tir nourri et font reculer les Français. Trois fois, Augereau lance ses hommes à l'assaut, trois fois, il est repoussé. La situation devient grave. Alvinzi a eu connaissance de la manœuvre. Il commence à descendre de Caldiero par les marais. Masséna ne pourra l'arrêter. Napoléon quitte alors son refuge du bord de l'Adige, Ronco, afin de donner du courage à ses hommes. Mais il tombe dans les marais et s'enlise. On le tire de la boue, il prend un drapeau et s'engage sur le pont. La mitraille redouble. Alors, le colonel Muiron, comprenant que Bonaparte va à la mort, lui fait un rempart de son corps. Une balle l'atteint en plein cœur. Galvanisé par cet acte héroïque, les soldats sont sur le pont et ils tentent de passer sur l'autre rive, en vain. Le 16 novembre 1796, les Français font semblant de battre en retraite et attirent les Autrichiens dans leur piège. Mais la bataille n'est pas décisive. Il faut une ruse étonnante pour dénouer la situation le lendemain. Bonaparte envoie sur les arrières d'Alvinzi quelques dizaines de soldats qui, avec leurs trompettes, vont sonner la charge. Alvinzi s'y laisse prendre, croit avoir été débordé par son ennemi. Son dispositif se désunit. Augereau passe l'Alpone sur un pont de fortune au sud d'Arcole et prend les Autrichiens à revers. Masséna franchit enfin le pont d'Arcole, Alvinzi poursuivant les trompettes.
Napoléon vole comme l'éclair. Napoléon vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il est partout et il voit tout. Il sait qu'il est des hommes dont le pouvoir n'a d'autre borne que leur volonté quand la vertu des plus sublimes vertus seconde un vaste génie. Qui a écrit cela ? Bonaparte lui-même. Ces lignes sont publiées dans le courrier de l'armée d'Italie. Napoléon vient de découvrir les avantages de l'autopromotion et de la propagande. Il écrit lui-même sa légende. Plus tard, ce seront les bulletins de la grande armée, où même vaincu, il est vainqueur. Et nous, lecteurs, peut-être dupes, peut-être pas. Fascinés sans doute, horrifiés parfois, jamais indifférents.
Alvinsi est opiniâtre. Il veut absolument atteindre Mantoue. Certain qu'il va vaincre Bonaparte numériquement inférieur, il divise son armée en 6 colonnes chargées d'opérer l'encerclement du français Joubert, que Bonaparte a placé sur le plateau de Rivoli. Le 13 janvier 1797, Alvinsi attaque Joubert. La bataille se déroule dans un terrain montagneux, accidenté. Alvinsi ne lance pas d'offensive décisive, tant il est sûr de la victoire pour le lendemain. La nuit du 13 au 14 janvier va servir Bonaparte. Un magnifique clair de lune éclaire tout le paysage et laisse nettement apparaître les feux de bivouac de l'armée adverse. Bonaparte peut alors mettre au point sa manœuvre du lendemain avec précision. De plus, les renforts de Masséna venant de Vérone sont arrivés. Ils ont parcouru 140 km en 2 jours, mieux que les légions de César, dira Bonaparte. Le 14 janvier, à 7h du matin, les Autrichiens attaquent, les Français reculent. Joubert n'a plus de munitions, tous les combattants sont menacés par l'encerclement total. Mais le canon tonne, Masséna est là. Les Autrichiens ne l'avaient pas prévu. Il inverse la situation. Bonaparte va l'appeler l'enfant chéri de la victoire. La contre-attaque française s'organise, l'adversaire se débande. Le colonel Joachim Murat, à la tête de la division Ray, coupe la retraite de l'ennemi. À 18h, les Autrichiens sont écrasés. Et voilà, Bonaparte fait son entrée le 2 février 1797 dans Mantoue où Wurmser a capitulé. Il décide alors de se diriger vers Vienne. Le 6 avril, il en est à 100 km. Des préliminaires de paix sont alors signés avec l'Autriche à Leuben. Bonaparte, en vainqueur, revient à Milan et s'installe au château de Montebello avec Joséphine. Le 18 octobre 1797, les Autrichiens sont contraints de signer le traité de Campo Formio. La France y gagne la Belgique, le Milanais, la Lombardie, la rive gauche du Rhin jusqu'à Cologne, les îles Ioniennes. L'Autriche obtient Venise et conserve ses possessions jusqu'au fleuve l'Adige. Tout cela est certes fort intéressant pour la France, même si le principe révolutionnaire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est plutôt bafoué dans le nord de l'Italie. Mais ce qu'apprécient beaucoup le directoire, les députés, bref, tous ceux que l'état des finances en France inquiétait, c'est que Bonaparte sait, dans les traités de paix, exiger du vaincu des sommes astronomiques dont il envoie la plus grande partie dans les caisses qui commencent à se remplir. Le reste, c'est-à-dire des sommes énormes, il les garde pour sa convenance personnelle. Il n'est jamais tout seul dans ses campagnes, Bonaparte le Corse. Il est rejoint par sa nombreuse famille et il distribue à ses frères, ses sœurs, sa mère, des gratifications fort confortables. L'ancien pauvre est résolument décidé à s'inscrire dans la liste des plus grandes fortunes de l'histoire.
Babeuf, l'égalité à tout prix. L'égalité. Il en rêve, le petit commis d'arpentage, François-Noël Babeuf, né à Saint-Quentin en 1760. Il voudrait que cessent les injustices, et pour cela, il a imaginé le système suivant. Il faut supprimer les classes sociales et la propriété individuelle. Ensuite, tout le monde travaillera pour le même salaire, exactement. Les biens produits seront mis en commun, distribuée de façon équitable. Voilà pour la théorie qui est le fondement même du communisme. Babeuf, qui a pris le nom des Gracchus, Romains qui tentèrent une réforme agraire au 1er siècle avant Jésus-Christ, redistribuant aux pauvres les terres accaparées par les aristocrates, expose ses convictions dans son journal. Il est approuvé par d'anciens robespierristes, d'anciens montagnards, des déçus de tous bords. Il s'entoure de partisans de qualité parfois discutable. Ainsi, Buonarroti, un conspirateur qui se prétend le descendant de Michel-Ange. Au début de 1796, une conspiration visant à renverser le directoire est élaborée par Gracchus Babeuf et ses compagnons. Cette conspiration des égaux parvient aux oreilles de la police du gouvernement. Les conjurés sont arrêtés le 8 mai. Trois semaines plus tard, Babeuf et son compagnon d'Arte montent à l'échafaud. Les autres sont déportés.